Tous les jours, on sillonne nos diocèses et aujourd'hui, on s'arrête à Tarbes pour évoquer l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Rebonjour, Androse Jankovic.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous.
On débute cet agenda avec le lancement de la campagne du denier de l'Église pour le diocèse de Tarbes et Lourdes avec une nouveauté cette année.
Oui, puisque nous sommes habitués à un lancement en grande pompe de la campagne du denier annuel. En général, ça se passe à la fin du mois de février à la maison diocésaine à Tarbes pour tout le diocèse. Cette année, notre diocèse a décidé de lancer la campagne du denier en paroisse. Alors, si vous avez des questions, si vous souhaitez des précisions pour savoir comment est utilisé l'argent que vous donnez au diocèse, si vous êtes un donateur habituel ou occasionnel ou pas du tout, justement, si vous ne vous êtes pas encore décidé à franchir le pas et à devenir donateur, si vous êtes engagé en paroisse ou habitant du coin, mais que vous n'avez jamais pensé que le denier était pour vous, eh bien, cette rencontre, précisément, ces rencontres des localisées sont faites pour vous puisque le diocèse se déplace de paroisse en paroisse pour lancer officiellement la campagne du denier en cette année 2026 et ça a commencé ce mardi 27 janvier du côté de Bagnères-de-Bigorre à Bagnères-de-Bigorre pour toute la paroisse du pays de Bagnères. Au moment où je vous parle, la rencontre doit s'achever. Depuis ce matin, tous les habitants de ce territoire du pays de Bagnères ont pu venir poser leurs questions aux personnes du diocèse, le service comptabilité, le service donateurs qui sont venus à la rencontre des paroissiens mais aussi de tous les habitants qui voulaient en savoir plus sur la manière qu'a l'Église de gérer son argent. Et puis les rencontres vont aller ainsi, vont s'échelonner toutes les jours qui vont venir puisque déjà demain la même équipe sera présente à Lourdes de 9h à midi, demain mercredi 28 janvier, et puis jeudi 29 janvier, la rencontre aura lieu à Maubourguet pour toute la paroisse, pour tout le territoire de la paroisse du pays Vic-Maubourguet, et puis ça continuera ainsi la semaine prochaine et encore la semaine suivante. L'idée est vraiment d'aller à la rencontre des donateurs ou de potentiels donateurs pour répondre à toutes les questions et pas de tabou à propos de l'argent dans l'Église.
Voilà, cette nouveauté, donc lancement de la campagne du denier de l'Église décentralisée. On aura bien entendu l'occasion en reparler, j'imagine, sur notre antenne avec
évidemment,
vous et vos invités.
Bien sûr.
Autre actualité dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, c'est ce jeudi, la halte speed des catéchistes.
Oui, alors c'est un rendez-vous trimestriel pour tous les catéchistes du diocèse. Vous savez que dans toutes les paroisses, dans toutes les communautés paroissiales, il y a des personnes qui se mobilisent tout au long de l'année pour transmettre la foi, pour parler de l'évangile aux enfants, aux plus jeunes. Et de temps en temps, ces personnes-là ont elles-mêmes besoin de moments de formation, mais aussi de convivialité pour recharger les batteries. C'est l'objectif de ces haltes speed des catéchistes. Et la prochaine a lieu cette semaine, le jeudi 29 janvier. Ça se passe à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul, à Tarbes, de 9h à 16h, avec, comme à chaque fois, un temps d'enseignement avec notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika, et puis ensuite des ateliers, des témoignages, vraiment tout ça avec l'objectif que les catéchistes puissent aussi échanger entre eux pour pouvoir repartir plein d'énergie dans les territoires qu'ils occupent. Voilà donc la halte speed des catéchistes, on en profite pour les remercier ces catéchistes parce que c'est un travail très discret, mais c'est un travail tout à fait nécessaire et efficace.
Voilà, et on les salue s'ils nous écoutent. La suite de l'agenda, c'est avec ce samedi la journée de la vie consacrée.
Ah oui, alors vous savez que la journée mondiale de la vie consacrée, c'est le 2 février, le jour de la Chandeleur, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Le conseil diocésain de la vie consacrée organise ce samedi 31 janvier au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes une journée pour célébrer donc la vie consacrée avec ce thème associé au thème pastoral du sanctuaire de Lourdes, avec Marie, un oui que comble nos vies. Et toute la journée, les consacrés du diocèse de Tarbes et Lourdes se retrouveront donc avec d'abord un temps d'accueil, un moment de prière bien sûr, et puis le lancement de la journée avec l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Jean-Marc Mika, et puis il y aura un temps de présentation des communautés. Voilà, il y a des nouvelles communautés qui arrivent parfois, et donc c'est l'occasion aussi de donner les nouvelles des uns des autres. Et puis à 11h15, il y aura la messe célébrée en la basilique du Rosaire, où les consacrés pourront rénover leurs vœux. Alors cette messe, elle est ouverte à tous, on peut venir prier et rendre grâce pour ces vies données. Et après l'Angélus à la grotte, eh bien, tous les consacrés du diocèse pourront vivre un temps de partage du repas, voilà, convivial. Et puis ensuite, ils auront un enseignement de Monseigneur Mika et voilà, un dialogue entre eux, un temps d'échange. En tous les cas, cette journée pour la vie consacrée, c'est l'occasion pour nos consacrés, les consacrés du diocèse, eh bien, pour eux aussi, de recharger les batteries, de partager les nouvelles entre eux. Mais c'est l'occasion pour nous de prier pour eux. Donc notez bien cette journée, samedi 31 janvier.
Voilà, ce samedi. On poursuit, on termine cet agenda avec la journée mondiale du handicap.
Oui, le diocèse de Tarbes-et-Lourdes s'associe à la journée internationale du handicap avec ce 1er février, ce dimanche 1er février de 10h30 à 10h, une journée à la maison Saint-Paul, donc la maison diocésaine, à Tarbes, avec des ateliers, un repas tiré du sac, et puis la messe avec ce thème « Chante avec moi l'espérance partagée ». C'est une journée qui est ouverte à tous, qui est organisée par la pastorale de la santé du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Donc rendez-vous pour vous associer, vivre pleinement cette journée internationale du handicap, ce dimanche 1er février de 10h30 à 17h à Tarbes, la maison Saint-Paul.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. La suite, ça se passe sur l'application Au Clocher.
L'application Au Clocher, le site du diocèse catholique65.fr et puis le bulletin diocésain.
Et je termine cet agenda en vous signalant qu'il manque un abonné pour la chaîne Bigorre TV.
Vous suivez les affaires.
Voilà, je vais de regarder à l'instant 999.
Mais
donc
bon,
vous avez promis 1000.
Il
hein.
Y a quelqu'un qui fait exprès de pas s'abonner.
Si, d'ici la fin de l'émission, ça sera fait.
Moi, je dis ça comme ça, mais il y a quand même toujours un petit cadeau qui est en jeu pour le 1000e abonné.
Bah voilà, il suffit là de se connecter, de s'abonner. Voilà. Bah
voilà, c'est facile. Un clic, on est abonné. Philippe Subercas, qui est pas loin de vous dans la régie,
il n'a pas le droit de participer parce que s'il y a un cadeau, il peut pas participer.
Tant pis, il n'aura pas la boîte de chocolat. Il n'aura pas la boîte de pâtes de fruits de l'abbaye de Tournaille.
Voilà. Bien, bon, on surveille ça. Et puis moi, je vous remercie, André Jean-Covic, vous restez avec nous, puisqu'on va vous retrouver dans un instant, puisque vous avez pris un peu votre voiture, puisqu'on vous retrouvera dans quelques minutes, puisque vous étiez du côté de la Mongie pour la tournée des neiges.
Oui, si on peut dire ça comme ça.
Et dans quelques minutes, eh bien, on vous retrouve dans quelques instants même. On vous retrouve, puisque vous étiez à Argelès-Gazost il y a quelques jours. Hein.
Oui, tout à fait. Je me suis rendue à Argelès-Gazost samedi 17 janvier pour l'inauguration de l'école Notre-Dame et du presbytère d'Argelès, puisque pour vous rappeler un peu le contexte et l'histoire, le 17 janvier 2022, il y a 4 ans, un incendie s'était déclaré dans le presbytère d'Argelès-Gazost et le bâtiment avait rapidement pris feu, parti entièrement dévasté par les flammes. Mais l'école Notre-Dame mitoyenne avait été vraiment très endommagé, donc l'école avait été relogée, les prêtres également du côté presbytère. Quatre ans après de lourds travaux, de grands travaux de rénovation, eh bien ça y est, enfin chacun peut retrouver ses marques. Les élèves ont retrouvé leur école début septembre et puis les prêtres relogeront bientôt dans le presbytère refait à neuf. Samedi 17 janvier dernier, c'était l'inauguration de ce double bâtiment donc, et j'ai ouvert mon micro à cette occasion. Vous allez écouter la joie du président de l'OGEC, du directeur de l'établissement et puis du curé. Alors Philippe Miller, vous étiez président de l'OGEC au moment de l'incendie le 17 janvier 2022, et président de l'OGEC pendant toute la durée des travaux, depuis 8 ans. Qu'est-ce qu'on inaugure aujourd'hui à Argelès-Gazost?
Je crois qu'on inaugure un projet de co-construction. Un bâtiment qui a deux utilités et qui a été co-construit entre le diocèse et l'école, où on a étudié l'utilité de tout un chacun, et qui est utile pour tous et également pour chacun d'entre nous.
Pour vous, ça a du sens, que ce soit à la fois la paroisse et l'école, le presbytère et l'école, ça c'est pas anodin.
Ah ben c'est loin d'être anodin, et je crois qu'on a l'utilité, elle est dans les deux sens, hein, comme ça. Après, ça a vraiment le sens pastoral. On est dans une école catholique, on a un presbytère qui est à côté, on travaille main dans la main, on a co-construit ce bâtiment pour qu'il y ait les doubles utilités.
Qu'est-ce qui a été difficile pendant ces 4 années? Au fond, le vrai défi, il a été celui de quoi? De tenir?
De s'écouter au départ, de s'écouter, de se parler. Au départ, ça n'a pas été facile. Après, financièrement aussi, il fallait trouver les fonds. Et une fois qu'on a eu les fonds, que tout le monde a été rassuré, et qu'on a parlé, qu'on s'est écouté, qu'on a discuté, vous savez, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les discussions, c'est un peu comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer.
Alors justement, le financement, comment cette rénovation a été financée à côté école ?
Au niveau de l'école, il y a une association à Argelès qui s'appelle l'Oasis Familiale, qui était propriétaire de ce que l'on appelle nous ici le Sacré-Cœur, et qui donc a vendu le Sacré-Cœur en différents lots, et les fonds ont été entièrement donnés à l'OGEC pour la reconstruction de l'école. Est venu se rajouter également toutes les donations que les gens ont fait à travers la Fondation Saint-Mathieu, mais également les autres écoles qui nous ont aidés, des dons aussi personnels. Et puis on a aussi cette fondation Jurte, qui est une fondation suisse et qui nous a permis de faire le toit et les pompes à chaleur. Donc c'est même pas anodin.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire le montant total des travaux ?
Non, parce qu'ils ne sont pas finis.
Qu'est-ce qui reste à faire ?
Alors déjà, la cour de l'école. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, vous m'écoutez, mais vous ne le voyez pas. La cour de décolle, il faut leur enlever le goudron, il faut enlever le maximum de goudron. Après, il y a aussi le bâtiment de la cantine qui est à refaire. Il y a un portail aussi à créer. Il y a une végétalisation aussi de la cour à côté. Donc au niveau de l'école, c'est principalement ça qu'il y a à faire. Et dernière, j'allais oublier, une climatisation aussi du dernier étage, parce que là, ça va, aujourd'hui, il doit faire 5 degrés, mais par contre, l'été, quand il fait 30 à l'extérieur, il fait 45 dedans. Donc là, il y a une climatisation à faire.
En tous les cas, les bâtiments, enfin, cette école, quand on la visite aujourd'hui, 17 janvier 2026, c'est magnifique. Les élèves ont des classes spacieuses, lumineuses, les enseignants peuvent bien faire leur travail et les élèves doivent être heureux d'y venir. Ça doit quand même vous réjouir.
Mais c'est ça qui est bien. C'est que regardez, ils ont tous le sourire. Et c'est ça le thermomètre un petit peu d'une réussite d'un projet. C'est quand les gens ils ont le sourire, la banane, eh bien, ça y est, on est arrivé au bout.
Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'importance de l'OGEC, parce qu'on ne parle jamais des organismes de gestion, sauf quand il y a un problème. Alors, il y a eu un gros problème avec cet incendie. Puis aujourd'hui, c'est quand même la joie, la fierté, la réussite portée tous ensemble. C'est ça, vraiment, la mission de l'OGEC, d'être là dans les coups durs, mais d'être là aussi tout le temps, quoi.
Mais c'est un organisme de gestion. L'OGEC, c'est ça, l'organisme de gestion de l'éducation catholique. Elle est là pour gérer tout le quotidien et faire en sorte de donner les moyens à l'équipe éducative de travailler dans de bonnes conditions. C'est ça. On a une obligation de moyens et de résultats aussi tant qu'à faire, mais c'est de donner tout ce qu'il faut à l'équipe pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions.
Vous qui étiez président donc, de cet OGEC pendant 8 ans, avec cette période de 4 ans lourde, qu'est-ce que vous retenez humainement pour vous de cette expérience? Tout à l'heure, dans les différents discours, les uns les autres ont pu dire que quand ils vous ont croisé les quelques jours après l'incendie, vraiment, il y avait de la tristesse dans votre regard, mais en même temps de la détermination. Qu'est-ce que vous en retenez dans votre cœur, quoi?
Moi, je vais retenir juste un mot, c'est la solidarité. Vous imaginez pas le nombre, même à travers un regard, c'est quand on sent la solidarité chez les gens, cet échange-là, eh bien, c'est ce qui nous permet d'avancer, quoi. Donc je retiendrai surtout le mot solidarité. En plus, peut-être que vous ne le savez pas, mais en 2022, donc, quand il y a eu cet incendie, des travaux étaient déjà prévus et aller attaquer 3 semaines après. Donc là, on avait signé les devis, on était prêt à attaquer des travaux, et il y a eu l'incendie. Donc vous imaginez aussi comment est-ce que, au niveau du moral, vous prévoyez de la réfection, des gros travaux, et là, tout d'un coup, vous ne pouvez plus avancer, et vous ne savez pas où aller. Est venu se rajouter aussi que, qui est propriétaire ? Voilà, des problèmes juridiques, mais on est arrivé à passer outre tout ça.
Honnêtement, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit on laisse tomber, tant pis, il n'y aura plus d'école à Argelès et puis terminé, quoi?
Oui, oui. De nombreuses fois, j'ai regretté d'avoir dit oui il y a 8 ans, d'être rentré là. Mais à chaque fois, j'ai réfléchi, j'ai pris un peu de recul et puis je me suis dit non, il faut y aller, il faut continuer. Et je pense que j'ai eu raison.
Bravo, merci en tous les cas.
Merci à vous.
Alors Mathieu Rouliégal, ça y est, nous y sommes. Après 4 ans de tristesse, d'inquiétude, eh bien, c'est la joie, puisque aujourd'hui, 17 janvier 2026, eh bien, c'est l'inauguration officielle de l'école et du presbytère d'Argelès-Gazost. Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Alors, je suis heureux déjà de tout le monde qui est là aujourd'hui, des sourires malgré le mauvais temps. Et ça fait vraiment du bien, ces 4 années qui n'ont pas été faciles tous les jours.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Dans votre discours, vous avez comparé ces 4 années à des Jeux Olympiques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'endurance qui a été difficile?
Oui, c'est l'endurance, c'est comme les Jeux Olympiques où eh bien, il y a l'entraînement, c'est tout ce qu'on voit pas derrière, moi juste le jour de la compétition. Donc là c'est un peu ça, on voit le résultat, mais on voit pas toutes les préparations qu'il y a eu avant.
Il y a 4 ans, Radio Présence était déjà à vos côtés et c'est vrai que c'était la stupéfaction, la sidération, l'inquiétude, la peur du lendemain bien sûr et puis l'urgence de devoir d'abord reloger l'école. Vous avez pu compter sur beaucoup de solidarité mais pour les élèves et pour les familles, comment ils ont vécu ça en fait de l'intérieur eux ?
Je pense qu'il y a une blessure et ce qui est super c'est qu'aujourd'hui il y a des anciens élèves qui étaient à l'école à cette époque-là, qui n'ont pas revu l'école en tant qu'élèves, mais ils ont revu, donc ça permet de fermer une page. Voilà. Et d'en ouvrir une autre.
Alors, cette école, aujourd'hui, cette école Notre-Dame, elle est magnifique, elle est superbe. Il y a des classes spacieuses, lumineuses. Quelle est la plus belle réussite ? À mi-parcours, au milieu de ces 4 ans, on était revenus vous voir avec le petit micro de Radio Présence et vous nous racontiez comment les élèves, ils rêvaient leur école. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école là, qu'on peut visiter, qu'on peut découvrir en ce jour d'inauguration, elle est vraiment celle que les élèves ont rêvé, que vous, le directeur, vous avez rêvé avec eux ?
Alors, en partie, moi je dirais les salles, c'est en partie comme on l'a rêvé, comme les élèves l'ont rêvé. Mais après, je pense qu'elle va continuer à évoluer, en particulier la cour de récréation. On est en réflexion pour voir comment avoir plus d'espaces verts, plus d'arbres, plus de jeux collectifs. Donc, c'est pas fini. C'est une page.
En fait, construire une école ou rénover une école aujourd'hui en 2026, ça veut dire penser à la manière d'éduquer, de transmettre pour aujourd'hui, mais ça veut dire aussi se projeter dans l'avenir. Cette école, elle est là pour les générations qui vont venir aussi. Alors, comment vous faites pour construire un projet en vous disant il faut que ça corresponde aux besoins des élèves et des enseignants aujourd'hui, mais pour avoir aussi quelque chose à transmettre après ?
Oui, ça vit une école et heureusement que ça évolue parce que si on n'évolue pas avec nos élèves, ça va être assez compliqué. Mais au-delà de ça, je pense que cette école, elle va vivre, elle va évoluer aussi avec le cœur d'Argelès-Gazost. On a déjà commencé à refaire des projets avec la maison de retraite, à aller faire du sport au parc. Donc c'est vraiment, c'est pas que les bâtiments de l'école, c'est dans toute la ville.
Oui, parce que alors ça, c'est des choses dont vous aviez été privé quand l'école a été délocalisée, le temps des travaux, vous ne pouviez plus avoir cette accessibilité facile au cœur de la ville d'Argelès, quoi.
C'est ça, c'était très compliqué, il fallait prendre un bus ouais. Pour chaque activité. Là, on peut quasiment tout faire à pied, on peut aller à la médiathèque, aller lire des livres, écouter des histoires pour les plus petits, donc c'est super.
Est-ce qu'il y a des familles qui se sont... découragés, qui se sont dit bah, l'école est délocalisée, c'est un peu plus loin, c'est moins confort, on va pas attendre 4 ans que les travaux soient finis, on s'en va voir ailleurs. Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, vous avez senti une fidélité des familles, quoi qu'il en coûte ?
Non, c'est vraiment le quoi qu'il en coûte. C'est... Les murs n'étaient pas reconstruits. Même s'ils commençaient à s'impatienter, ils ont gardé foi, ils ont gardé espérance au fait que l'école revienne ici.
Aujourd'hui, il y a combien d'élèves et il y a combien de familles qui sont liées à l'école aujourd'hui, rentrée 2025-2026 ?
On a à peu près 75 familles et là, on va arriver à 110 élèves.
Avec une capacité d'accueil qui peut encore s'améliorer, vous en êtes où à ce niveau-là ?
Alors, on peut aller, pour travailler bien pédagogiquement, je peux dire on peut aller jusqu'à 120, mais l'idée, c'est pas d'exploser, c'est de rester vraiment une école à taille humaine.
Alors, les classes sont spacieuses, on peut caser pas mal d'enfants dans chacune des classes, mais c'est peut-être pas l'objectif.
Non. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Dans la mienne, on peut en caser beaucoup, je sais, je l'entends beaucoup aujourd'hui, mais non, l'idée, c'est l'intérêt de chaque enfant.
Quand même un dernier mot, Mathieu Rouliégal, sur la présence aujourd'hui de nombreux nombreuses personnes, de nombreuses personnalités, des représentants aussi de la ville, bien sûr, mais aussi des chefs d'établissement, des autres établissements catholiques des Hautes-Pyrénées, la directrice diocésaine de l'enseignement catholique. Ça, c'est important, je trouve, parce que ça dit aussi beaucoup la solidarité, vraiment le lien qu'il y a entre vous, chefs d'établissement. Vous êtes un peu isolés, chacun dans votre territoire. Vous avez une école à porter, vous avez des liens avec le territoire sur lequel vous êtes implanté à Bichonnet. Mais il y a quand même, on sent aujourd'hui, un vrai lien, une vraie solidarité les uns envers les autres. Ça, c'est quand même important.
Oui, parce qu'on se dit, eh bien, on a Argelès, on est un petit peu tout seul. Mais non, en fait, on a des gens derrière nous. Quand on a besoin, ils sont là et ça fait vraiment chaud au cœur. Quoi. Même il y a des chefs d'établissement au moment de l'apéritif qui m'ont dit, mais c'est bon, on peut t'aider. C'est des choses qui paraissent toutes simples, mais c'est important.
Ouais. Vous ne vous sentez pas seul? Vous ne vous êtes jamais senti esselé dans cette période, dans cette épreuve?
Non, parce que même quand on pouvait se sentir isolé, après, l'équipe a été vraiment formidable. Quoi. Dès qu'il y a eu besoin d'eux, ils étaient là. Quoi.
Aujourd'hui, l'école Notre-Dame à Argelès-Gazost, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Alors, il faut quand même dire hein, qu'elle était mitoyenne du presbytère avant l'incendie. Elle l'est toujours, puisque le choix a été fait de rénover les deux bâtiments ensemble. Ça a du sens. Mais aujourd'hui, cette école Notre-Dame, qu'est-ce qu'elle est, si vous deviez la définir? Allez, en une phrase, exercice pour Maître Mathieu.
Non, moi, le mot qui est le plus revenu durant ces 4 années, c'est une famille. C'est comme une famille. Mais des fois, c'est très difficile. Mais quand on a besoin d'eux, ils sont là.
Merci beaucoup, Mathieu Rolégal. Profitez bien de cette belle école Notre-Dame à Argelès-Gazost.
Merci beaucoup.
Père Abdel, aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'école Notre-Dame, mais c'est aussi l'inauguration du presbytère d'Argelès-Gazost. C'est important de dire que les deux bâtiments sont rénovés, restaurés, relevés ensemble. Pour vous, ça veut dire quoi?
Oui, alors c'est une grande joie pour nous aujourd'hui, pour cette inauguration entre de l'école et aussi du presbytère. Parce que l'école et le presbytère, ce sont deux identités qui vont ensemble. On ne peut pas, pour être prêtre, il faut étudier. Donc il faut forcément avoir l'école. Donc pour nous, mettre les deux ensemble, c'est symbolique. C'est symbolique pour dire que l'école va toujours avec la paroisse.
Alors vous êtes le curé de cette grande paroisse du pays d'Argelès-Gazost. Qui va venir vivre dans ce presbytère d'Argelès?
Bon, pour le moment, les travaux ne sont pas achevés. Dès que les travaux sont achevés, moi, le curé, Monseigneur Perrier, nous habiterons dans le presbytère. En tant que curé, j'ai réparti les prêtres. Moi, curé, Monseigneur Perrier, nous serons à Argelès. Le père Jean-Florent sera à Saint-Savin. Le père Daniel est notre séminariste à Pierrefitte.
Voilà. Bon, alors comme ça, tout le territoire est couvert. Il y a une vraie présence du pasteur ici à Argelès.
Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est important.
Qu'est-ce que ça veut dire justement que ce presbytère il soit présent au cœur de la ville d'Argelès? C'est pas juste un bâtiment pour la communauté chrétienne, il y a un rayonnement dans la ville et dans tout le territoire.
Oui, déjà, Argelès, c'est un arrondissement. C'est un arrondissement, déjà, il y a la sous-préfecture qui regroupe tous ces villages. Donc, comme on a un arrondissement qui a chef-lieu à Argelès, il est forcément que le cœur de la paroisse soit aussi à Argelès, quoi.
Les paroissiens ont attendu depuis 4 ans. Alors, on parle beaucoup de l'école et des élèves qui ont été patients pendant 4 ans, mais c'est vrai aussi pour l'équipe pastorale, pour les paroissiens qui, pendant 4 ans, ont dû faire sans presbytère, sans secrétariat paroissial ou avec un secrétariat paroissial délocalisé, en tous les cas. Aujourd'hui, la communauté chrétienne, elle accueille comment ce nouveau bâtiment et cette inauguration?
C'est vrai, Anne-Rose, on était en pied détaché. Oui. Comme une fois, j'ai fait la messe pour les élèves. Je les ai dit, on était en exil. Maintenant, nous sommes rentrés chez nous, comme ils viennent de les chanter. Et même la paroisse aujourd'hui, nous sommes en pied détaché. On ne sait pas qui est où. Donc, si déjà le presbytère est sur place, tout doit être harmonisé sur place.
Voilà, ben merci. Alors on souhaite vraiment de belles années aux presbytères, aux paroissiens et puis au curé que vous êtes. Vous devez être un curé complet là en ce début d'année 2026.
Oui, je suis toujours dans la joie, hein, toujours dans la joie. Voilà, pour rayonner. Vous voyez, mon discours était que chanter.
Ah ben, vous pouvez chanter quelque chose.
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. C'est un moment de louer le Seigneur pour ses travaux pendant 4 ans, que ce soit l'école, que ce soit les paroissiens, nous avons souffert. Aujourd'hui, il faut rendre grâce au Seigneur en le louant avec ses chants pour que nous puissions maintenant être unis pour le pays d'Argelès.
Merci beaucoup, Père Abdel. Merci.
Voilà, et merci aussi à Anne-Rose Jankovic. Voilà, nous étions en reportage dans le sud du département des Hautes-Pyrénées à Argelès-Gazost.
Présence à Toulouse, 97.9.
Elle sillonne tous les jours le département des Hautes-Pyrénées. Après Argelès-Gazost, direction La Mongie.
Eh oui, La Mongie, avec ses 69 pistes balisées, ses 43 remontées mécaniques, le domaine de La Mongie s'étend de part et d'autre du col du Tourmalet. Vous avez Barèges sur le versant ouest, La Mongie qui occupe le versant est, deux domaines skiables dont la jonction par le col du Tourmalet date de 1973, une cinquantaine d'années après le début du ski dans ce lieu. La Mongie, en ce mois de janvier, c'est vraiment une étendue de blanc. Alors, j'ai chaussé mes plus beaux après-ski, j'ai même pris ma luge et je suis partie à la conquête du plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. J'ai d'abord fait halte à la chapelle bénie et inaugurée en 1954 par Monseigneur Théas. Et c'est là que j'ai fait une belle rencontre. Guy Dabat, une figure locale. Voilà, alors nous voici à La Mongie, auprès de Guy Dabat. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes un enfant du pays, un enfant d'ici. Vous êtes témoin de pas mal de choses qui se sont vécues et qui se vivent à La Mongie. Vous allez un petit peu nous raconter. Alors, on va commencer par votre témoignage par rapport à la chapelle, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on s'est croisés tout à l'heure devant cette chapelle de La Mongie. Et vous avez souvenir des tout débuts, du temps de la bénédiction. Vous y étiez.
Mais oui, parce qu'à l'époque, mes parents étaient commerçants à La Mongie. Donc, j'habitais à La Mongie toute l'année, étant gamin. Et j'ai vu, c'est vrai, construire la chapelle, et comme on a pu le voir tout à l'heure sur la photo d'inauguration, je me trouve au premier rang sur cette photo, donc voilà.
Aujourd'hui, la chapelle, elle représente quoi dans, alors j'allais dire dans ce village, mais La Mongie, c'est un quartier de Bagnères-de-Bigorre.
Oui, mais la chapelle, ça, c'est un petit peu le point de repère de la station, parce qu'elle est là depuis, on a l'impression qu'elle est là depuis toujours. Donc tout le monde la voit, elle a un endroit ensuite très, très important puisqu'elle est au départ et au retour des pistes. Et ensuite, cette chapelle, elle est énormément photographiée, surtout la nuit.
Voilà, donc il y a des gens qui la photographient, mais il y a des gens qui y rentrent aussi. C'est important pour les personnes qui fréquentent la station de rentrer dans cette chapelle, de prendre un petit temps de pause dans cette chapelle.
Oui, mais la chapelle est fréquentée. On voit tous les jours, à longueur de journée, des gens qui rentrent dans la chapelle, qui font faire des visites. D'une part, des gens qui vont peut-être faire des prières, mais d'autre part aussi qui la visitent, parce que c'est une chapelle construite, vous avez pu le voir, tout en pierre. Mmh. Et donc, elle est quand même très intéressante à visiter. Il y a aussi dans le fond des fresques qui ont été dessinées par un peintre local qui s'appelle Bruno Schmelz, mmh, et qui était également moniteur de ski.
Ah voilà, alors on va reparler des skis dans quelques instants. Mais alors, pardon, mais si cette chapelle est ouverte, c'est qu'il y a quelqu'un quand même du coin qui prend le temps de l'ouvrir et de la fermer. Elle n'est pas ouverte constamment, donc il faut quelqu'un qui veille quand même.
Mais oui, il y a...
C'est vous, pas toujours ?
C'est moi, pas toujours. En principe, l'été, c'est pas moi. Mais après, pendant l'hiver, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Fabre, qui est aussi un ancien de la station, qui est là pendant toutes les vacances scolaires. Et c'est lui qui se charge d'ouvrir la chapelle et de la fermer tous les soirs. Et après, quand il n'est pas là, moi j'ai une clé, donc j'essaie de le faire dans la mesure où je suis libre et où je suis disponible pour pouvoir être là à l'ouverture et à la fermeture en fin de journée.
Pour vous, c'est important de rendre ce service ?
Mais oui, parce que c'est une demande. Il y a énormément de gens qui arrivent et quand ils arrivent à la chapelle et qu'ils trouvent porte close, c'est un petit peu gênant et c'est important surtout pour des gens qui souvent ne skient pas et qui ont envie de passer un petit moment ou de visite ou de recueillement dans la chapelle. appelle.
Alors j'ai entendu dire, vous allez me dire si c'est vrai, que quelquefois, peut-être davantage pendant les vacances scolaires, il y a des temps de prière, des messes, des célébrations, et que parfois, eh bien, les skieurs descendent tout juste de leur ski et même arrivent dans la chapelle avec leur ski qui reste au fond de la chapelle. Vous confirmez ça ?
Oui, je confirme. En principe, il y a ou une messe ou un moment de prière tous les samedis à 17h. Et souvent, il y a des habitués de la station qu'on voit absolument tous les samedis. Et puis, il y a aussi des skieurs, puisque c'est au moment du retour du ski, puisque les pistes ferment à 17h. Donc, on voit des gens, bien sûr, en tenue de ski, en équipement, pour ces moments de prière ou de recueillement. Oui.
Voilà, donc c'est quand même un lieu atypique. Alors maintenant, on va parler un peu plus largement autour de cette chapelle. Bah, évidemment, là, en cette saison, c'est tout blanc, c'est magnifique. C'est la saison du ski qui va son plein. Ça a bien démarré déjà pour les vacances de Noël. Il y avait déjà pas mal de neige.
Oui, les vacances de Noël se sont bien passées. Comme toujours, la première semaine, avec le jour de Noël, c'est toujours un petit peu plus calme. Et une deuxième semaine où il y a eu une très forte fréquentation de la station.
Très forte fréquentation, ça veut dire jusqu'à combien de personnes ?
Oh, il y a eu des journées, 11 500 skieurs sur le domaine skiable du Tourmalet. Oui.
On peut quand même skier quand il y a autant de monde ? On est à l'aise encore pour skier ?
Mais quand toutes les remontées, toutes les pistes sont ouvertes, les gens se répartissent et oui, on arrive à skier à peu près normalement, oui.
C'est quel public davantage ici ? Est-ce qu'il y a plus de familles, des jeunes, des groupes de copains ou c'est un peu tout ? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou catégorie un peu plus privilégiée ici ou qui est plus à l'aise ici ?
Non, je ne pense pas. Je pense que C'est absolument toutes les catégories, on retrouve de tout sur les pistes. Effectivement, pendant les vacances, on voit énormément d'enfants parce qu'il y a des cours à l'école de ski avec énormément d'enfants, entre 7 et 12 et 13 ans, qui sont dans les cours. Mais après, sur les pistes, on retrouve absolument de tout. Oui.
Et là, en janvier, c'est davantage les élèves qui viennent avec leurs écoles. Hein.
En janvier, il y a pas mal de classes de neige pendant la semaine. Et après, les week-ends, une clientèle habituelle et normale, hein, voilà, plutôt un petit peu locale, oui.
Vous-même, vous avez été moniteur de ski, enfin, quand on l'a été, on l'est toujours, j'imagine.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que quand on a besoin de renfort, on vous appelle, quoi.
Ça arrive de temps en temps pendant les vacances où le directeur d'école de ski nous appelle parce que, bon, il y a vraiment beaucoup de monde et ils nous appellent pour des renforts pendant quelques heures dans la journée. Oui.
Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier d'apprendre à skier ?
Bon, d'abord, il y a le site, on est content d'être sur la neige dans un site agréable. Et puis ensuite, il y a surtout l'enseignement. Surtout avec les enfants qui, en général, c'est des cours pendant les vacances qui durent 5 jours, 6 jours. Et on arrive en 6 jours à faire vraiment des progrès très, très importants aux enfants. Et dans la semaine, c'est vraiment fantastique.
Vous avez appris à skier tout petit ?
Oui.
À quel âge ?
Bon, disons aux alentours de 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans.
Vous skiez tous les jours, là, en ce moment ?
Non, pas en ce moment, parce que bon, on s'occupe un peu aussi du magasin, ici. Et donc, voilà, on essaie de faire les deux.
Alors, le magasin, Ski Shop, d'ailleurs, vraiment à deux pas de la chapelle. Donc, le public qui vient skier, vous les recevez ici pour bien les équiper. C'est quoi le bon équipement pour skier ?
L'équipement, vous savez, maintenant, il y a eu énormément de progrès dans le matériel de ski. Donc, les équipements sont tous de très, très bonne qualité. Et après, bon, il peut y avoir aussi des skieurs qui sont d'un très, très bon niveau et qui demandent des équipements avec du matériel un peu plus haut de gamme.
Vous, c'est aussi votre métier aujourd'hui, de les conseiller, d'être à l'écoute de ce qu'ils savent faire ou de ce qu'ils veulent faire pour leur choisir le meilleur matériel.
Oui, mais après, vous savez, le matériel, même maintenant, le matériel débutant ou skieur moyen, c'est du très, très bon matériel. Oui. Il y a eu de grosses évolutions à ce niveau-là. Et il y a vraiment toutes les gammes de matériel trouvées dans les magasins. Voilà.
Alors, l'histoire du matériel nécessaire pour skier, qui s'ajoute au coût, bien sûr, du ski, des remontées et tout ça, ça peut être un frein quand même.
Non, je ne pense pas. La location de matériel dans la journée de ski, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein.
Ça coûte combien pour une journée ? Moi, si je prends le matériel pour une journée, ça va coûter combien ?
Exactement.
On a un premier prix pour le matériel de ski qui est un jour 20 euros. Ski, chaussures, bâton.
Le casque, c'est voilà. Les personnes qui doivent...
Parce que souvent, il y a des gens qui ont leur casque. Ah oui. Et le casque, donc, c'est en plus, c'est 7 euros pour le casque pour la journée.
Donc là, moi, pour peaufiner mon reportage, si je veux partir skier pour la journée, pour Radio Présence, pour que mon reportage soit vraiment un vrai reportage, 20 euros, j'ai mes skis, mes bâtons.
Voilà, les skis, les bâtons et les chaussures. Et les chaussures. Voilà. Et on a aussi des tarifs demi-journée, ça coûte 16 euros.
Voilà, bon, alors, c'est pas si cher que ça de s'équiper, mais c'est important de bien s'équiper pour pouvoir aller skier.
Non, mais il n'y a aucun souci, le matériel, vous voyez, pratiquement tout le matériel, que ce soit pour les débutants, les bons skieurs, c'est tout du matériel neuf, et il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
Et l'entretien, une fois que la saison de ski est terminée, le matériel, vous l'entretenez comment, d'une saison à l'autre?
On regarde le matériel, souvent c'est ce qu'on appelle la semelle des skis, le dessous des skis qui peut être rayé, abîmé. Donc à ce moment-là, on l'amène dans des gens qui refont ce matériel, qui le passent dans des machines pour le remettre en état. Voilà.
Et alors, on parle de ski, mais il y a aussi le snow. Ça marche bien?
Ça marche bien aussi. Ça s'adresse plutôt à une clientèle plutôt plus jeune pour le snow, oui.
Et là, ici, à la Mongie, il y a beaucoup de cette clientèle qui vient?
Il y en a aussi. Quand on regarde le domaine skiable, je vois passer des gens là-bas avec les snows sous le bras.
Bon, aujourd'hui, la Mongie, telle que vous la voyez, vous qui vivez depuis toujours, qui êtes présent depuis votre enfance, comment ça a évolué? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quand vous observez ce qu'est la Mongie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes nostalgique du temps passé? Est-ce que vous êtes heureux de ce que la Mongie est aujourd'hui?
Non, pas du tout. Il y a des évolutions. On le voit d'une part d'abord sur le domaine skiable, avec une modernisation du domaine skiable qui a eu lieu ces dernières années, avec de nouvelles remontées, de nouveaux télésièges. Il y aura encore un nouveau télécabine les années prochaines sur le versant de Barège. Donc non, ça évolue continuellement et ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, il y a la partie urbanisée de la station, et qui n'a pas trop bougé pendant un certain nombre d'années. Et là, depuis l'an dernier, la commune essaie de réaménager les espaces publics pour essayer d'amener plus de confort, notamment améliorer le système de parking et surtout avoir beaucoup de circulation piétonne, ce qui n'existait pas trop jusqu'à maintenant. Et voilà, on y travaille depuis 2 ans. Il y a encore des projets à ce niveau-là qui vont se poursuivre encore pendant au moins 2 années.
Voilà, alors là c'est Monsieur Dabat avec la casquette d'élu qui nous parle.
Voilà, c'est ça.
Puisque, alors je le disais, la Mongie est un quartier de Bagnères-de-Bigorre et vous êtes élu à Bagnères-de-Bigorre depuis un certain nombre d'années.
C'est ça, depuis une trentaine d'années maintenant. Et j'ai fait 5 mandats et c'est... Ma délégation, c'est la Mongie, Pic du Midi, enfin tout le secteur ici, voilà.
Et là, c'est vous vous représentez?
Non, c'est terminé, je crois que j'ai fait mon temps, il faut laisser la place aux jeunes un peu maintenant.
Voilà. Alors, encore deux petites questions. Alors d'abord, pour revenir au ski, on parle souvent de l'avenir des stations de ski. Qu'est-ce qu'elles vont devenir quand il y aura de moins en moins de neige? On parle de ça dans le contexte du réchauffement climatique. Aujourd'hui, quand on voit la Mongie, là, alors que je vous parle, on se dit, il y a beaucoup de neige, il fait froid, ça nous semble loin, ces débats-là. Mais est-ce que c'est des choses que vous avez en tête? Vous vous dites, il faudra quand même qu'on trouve un moyen de réinventer les propositions?
Bon, il y a 2 choses. D'une part, je pense que dans l'immédiat, on ne devrait pas avoir de soucis, puisqu'on pense qu'au moins jusqu'en 2050, des stations comme la Mongie, qui se trouvent à 1800 mètres d'altitude et qui vont jusqu'à les pistes, jusqu'à 2004 en gros, donc on devrait avoir toujours un enneigement suffisant pour fonctionner normalement. Il faut dire aussi qu'on a l'aide maintenant de systèmes d'enneigement avec ce qu'on appelle la neige de culture, qui nous aide énormément, surtout en début de saison. Donc on n'est pas trop inquiet pour l'avenir proche, mais on pense surtout à une chose, c'est maintenant, tout le monde ne parle que de ça, c'est-à-dire la diversification, de façon à essayer, d'une part, pour amener davantage de clientèle pendant les saisons d'été, et d'autre part aussi, essayer de trouver des aménagements qui peuvent être complémentaires au ski pendant la saison d'hiver.
Et vous en pensez quoi? Vous avez vos idées là-dessus? Vous vous dites, tiens, il faudrait plutôt qu'on fasse ça?
Moi j'ai des idées, mais on y travaille, les communes y travaillent, l'exploitant des remontées mécaniques à la SEM du Grand Tourmalet y travaille. Là, il y a déjà des projets qui sont en cours sur Barège. Il y a des réflexions sur la Mongie avec un bureau d'études, avec peut-être des premiers aménagements qui devraient se faire à partir de 2027. Donc oui, on y travaille, bien sûr, c'est très important.
Alors ma dernière question au sujet de la neige, c'est l'interdiction de fumer en haut des pistes depuis quelques semaines. Là. Vous avez des retours, vous, là-dessus ou c'est un comportement que, de toute façon, les usagers avaient déjà observé?
Non, en fait, moi, personnellement, je n'ai pas de retour.
Ça ne vous a jamais dérangé? Vous n'avez jamais été confronté à des gens qui passaient plus de temps à fumer qu'à ce qu'il y ait dans vos leçons?
Non, il y avait déjà depuis, alors je ne sais pas si c'est un an ou deux ans, une interdiction de fumer dans la queue et sur les remontées mécaniques. Et donc là, maintenant, cette année, c'est sur l'ensemble du domaine skiable. Alors bon, c'est toujours un petit peu délicat parce que le domaine skiable, c'est quoi? C'est la limite des pistes. Si quelqu'un qui souhaite vraiment fumer, il suffit qu'il se mette de quelques mètres hors piste et on ne peut rien lui dire non plus. Donc voilà. Bon. Ou alors c'est toujours autorisé, il faut aller sur les terrasses des restaurants ou des restaurants d'altitude.
Voilà, bon, en tous les cas, c'est un petit pas pour préserver et ceux qui sont autour de nous et peut-être un petit peu, oui. Un petit peu la nature. Au moins, il n'y a pas de mégots qui traînent sur la neige.
C'était surtout, dans le passé, beaucoup plus gênant dans les queues des remontées mécaniques que sur les pistes. Voilà.
Merci beaucoup pour votre accueil, Monsieur Dabat. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur la Mongie pour que les auditeurs qui nous écoutent partout en Occitanie ils puissent, à travers vos mots, voir, comprendre un petit peu à quel point ça vaut le coup de venir à la Mongie?
Non, mais la Mongie, c'est une station ancienne qui a progressé au fil du temps, qui a un domaine skiable important, puisqu'on dit que c'est le plus grand domaine des Pyrénées françaises. Et donc, voilà, je pense que la station du... La Mongie et le domaine du Grand Tourmalet a toujours encore un grand avenir. On a la chance à la Mongie d'avoir le téléphérique qui donne accès au pic du Midi de Bigorre. Et c'est quelque chose de très important, puisque c'est aussi l'hiver, un domaine de ski hors piste fréquenté par les freeriders, très très important. Et surtout pendant l'été, une fréquentation très très importante et qui est en progression d'année en année. Et on a aussi bientôt, on espère, avoir l'UNESCO, le classement à l'UNESCO, oui. Qui est le dossier est très bien avancé et très certainement, on pense qu'en 2027, on devrait être pas loin d'aboutir.
En tous les cas, ce qu'on entend, c'est que bon, là, on est en pleine saison d'hiver, mais il y a du monde tout le temps à la Mongie et il y a toujours quelque chose à faire, à voir, à découvrir à la Mongie.
Voilà, hiver, été.
Merci beaucoup.